Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort. Par Sogyal Rinpoche. Suite de la première partie sur la vie. Le message de l'impermanence. L'espoir contenu dans la mort. Approfondissez encore votre examen de l'impermanence et vous découvrirez qu'elle comporte un autre aspect. Un autre message chargé d'un espoir immense, capable de nous ouvrir les yeux à la nature fondamentale de l'univers et à la relation extraordinaire que nous entretenons avec lui. Si tout est impermanent, alors tout est vide, c'est-à-dire sans existence intrinsèque, stable ou durable. Et toutes choses comprises dans leur véritable relation sont vues non comme indépendantes, mais comme interdépendantes. Le Bouddha comparait l'univers à un immense filet tissé d'une infinie variété de diamants étincelants. Chaque diamant, comportant un nombre incalculable de facettes, réfléchit tous les autres diamants du filet. Il ne fait qu'un avec chacun d'eux. Imaginez une vague à la surface de la mer. Vue sous un certain angle, elle semble avoir une existence distincte, un début et une fin, une naissance et une mort. Perçue sous un autre angle, la vague n'existe pas réellement en elle-même. Elle est seulement le comportement de l'eau, vide d'une identité séparée, mais pleine d'eau. Si vous réfléchissez sérieusement à la vague, vous en venez à réaliser que c'est un phénomène rendu temporairement possible par le vent et l'eau, qui dépend d'un ensemble de circonstances en constante fluctuation. Vous vous apercevez également que chaque vague est reliée à toutes les autres. Si vous y regardez de près, rien ne possède d'existence intrinsèque. C'est cette absence d'existence indépendante que nous appelons vacuité. Pensez à un arbre. Vous aurez tendance à le percevoir comme la vague, en tant qu'objet clairement défini, ce qui est vrai à un certain niveau. Mais un examen attentif vous montrera qu'en fin de compte, il ne possède pas d'existence indépendante. Si vous le contemplez, vous constaterez qu'il se dissout en un réseau extrêmement subtil de relations s'étendant à l'univers entier. La pluie qui tombe sur ses feuilles, le vent qui l'agite, le sol qui le nourrit et le fait vivre, les saisons et le temps, la lumière de la lune, des étoiles et du soleil, tout cela fait partie de l'arbre. En poursuivant votre réflexion, vous découvrirez que tout dans l'univers contribue à faire de l'arbre ce qu'il est. Et qu'il ne peut à aucun moment être isolé du reste du monde. et qu'à chaque instant, sa nature se modifie imperceptiblement. C'est ce que nous entendons lorsque nous disons que les choses sont vides, qu'elles n'ont pas d'existence indépendante. La science moderne nous parle d'un registre extraordinaire de corrélation. Les écologistes savent qu'un arbre en feu dans la forêt amazonienne modifie d'une certaine façon l'air respiré par un Parisien et que le frémissement d'une aile de papillon au Yucatan affecte la vie d'une fougère dans les Hébrides. Les biologistes commencent à découvrir la danse complexe et fabuleuse des gènes qui créent la personnalité et l'identité. Une danse qui prend sa source dans un passé très lointain et prouve que chaque identité est composée d'un tourbillon d'influences diverses. Les physiciens nous ont fait connaître le monde des particules quantiques, un monde qui ressemble étonnamment à celui décrit par le Bouddha lorsqu'il parle du filet scintillant qui se déploie dans l'univers. Tels les diamants du filet, les particules existent toutes potentiellement en tant que combinaisons différentes d'autres particules. Si nous portons un regard véritable sur nous-mêmes et sur les choses qui nous entourent et qui jusqu'alors nous paraissaient si certaines, si stables et si durables, nous nous apercevons qu'elles n'ont pas plus de réalité qu'un rêve. Le Bouddha a dit: sachez que toutes choses sont ainsi. Un mirage, un château de nuages, un rêve, une apparition, sans réalité essentielle, pourtant leurs qualités peuvent être perçues. Sachez que toutes choses sont ainsi, comme la lune dans un ciel clair, reflétée dans un lac transparent. Pourtant, jamais la lune n'est venue jusqu'au lac. Sachez que toutes choses sont ainsi, comme un écho issu de la musique, de sons, de pleurs. Pourtant, dans cet écho, nulle mélodie. Sachez que toutes choses sont ainsi. Comme un magicien nous donne l'illusion de chevaux, de bœufs, de charrettes et d'autres objets, rien n'est tel qu'il apparaît. La contemplation de la nature, semblable au rêve de la réalité, ne doit en aucune façon nous rendre froids, désespérés ou amers. Elle peut révéler au contraire la présence d'un humour chaleureux, d'une compassion vigoureuse et tendre dont nous étions à peine conscients, et par conséquent d'une générosité grandissante envers toute chose et tout être. Le grand saint tibétain Milarepa disait: reconnaissant la vacuité, soyez empli. Soyez empli de compassion. Lorsque la compassion nous aura permis de voir clairement la vacuité et l'interdépendance de toutes choses et de nous-mêmes, le monde se révélera à nous, éclairé d'une lumière plus vive, plus limpide et plus éclatante, tel le filet de diamants au reflet infini dont parlait le Bouddha. Nous n'aurons alors plus besoin de nous protéger ou de faire semblant. Il deviendra plus facile de suivre ces conseils d'un maître tibétain. Reconnaissez sans cesse le caractère onirique de la vie et réduisez attachement et aversion. Cultivez la bienveillance envers tous les êtres. Soyez emplis d'amour et de compassion, quelle que soit l'attitude des autres envers vous. Ce qu'ils vous font aura une moindre importance si vous le voyez comme un rêve. La clé est de conserver une intention positive durant le rêve. C'est là le point essentiel, la spiritualité authentique. La vraie spiritualité consiste à être conscient du fait que si une relation d'interdépendance nous lie à chaque chose et à chaque être, la moindre de nos pensées, paroles ou actions aura de réelles répercussions dans l'univers entier. Lorsque vous lancez un caillou dans une mare, sa chute produit des ondes à la surface de l'eau. Et ces ondes se fondent les unes dans les autres pour en créer de nouvelles. Tout est inextricablement lié. Nous en viendrons à comprendre que nous sommes responsables de chacun de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Responsables en fait de nous-mêmes, de tous les êtres et de toutes les choses, ainsi que de l'univers entier. Le Dalai Lama a dit: dans notre monde contemporain, régi par une extrême interdépendance, les individus et les nations ne peuvent plus résoudre seuls la plupart de leurs problèmes. Nous avons besoin les uns des autres. Il nous faut, par conséquent, acquérir un sens universel de notre responsabilité. C'est notre responsabilité collective, autant qu'individuelle, de protéger et de nourrir la famille planétaire, de soutenir ses membres les plus faibles, et de protéger et prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons tous. L'immuable. L'impermanence nous a déjà révélé de nombreuses vérités, mais elle nous réserve un dernier trésor. Souvent caché, nous n'en soupçonnons pas l'existence. Nous ne le reconnaissons pas. Il est pourtant le plus intimement notre. Le poète allemand Rainer Maria Rilke écrivait que nos peurs les plus profondes sont comme des dragons gardant notre trésor le plus secret. La peur, éveillée en nous par l'impermanence, que rien ne soit réel et que rien ne dure, se révèle en fait notre meilleure amie, car elle nous pousse à nous poser la question suivante: si tout change et meurt, qu'y a-t-il de vrai, réellement ? Existe-t-il derrière les apparences quelque chose d'illimité, d'infiniment spacieux, au sein duquel se déploierait la danse du changement et de l'impermanence ? Existe-t-il quelque chose sur quoi nous puissions compter et qui survive à ce que nous appelons la mort ? nous examinons ces questions en y réfléchissant avec diligence, nous serons peu à peu conduits à modifier profondément notre façon de voir le monde par une contemplation continue et un constant entraînement au lâcher-prise. Nous en viendrons à découvrir en nous-mêmes cela que nous ne pouvons ni nommer, ni décrire, ni conceptualiser. Nous commencerons alors à comprendre que cela est sous-jacent à tous les changements et à toutes les morts du monde. Les désirs et les distractions limitées auquel nous avait condamné notre quête avide de la permanence, commenceront alors à perdre de leur force et à se détacher de nous. Durant ce processus, nous aurons à maintes reprises des aperçus lumineux sur les vastes implications sous-jacente à la vérité de l'impermanence. Comme si nous avions passé notre vie dans un avion en vol, traversant nuages, sombres et turbulences, et que nous voyions soudain l'avion s'élever en flèche dans un ciel clair et sans limite. Inspiré et exalté, par cette émergence dans une dimension nouvelle de liberté, nous découvrirons une profondeur de paix, de joie et de confiance en nous-mêmes qui nous émerveillera et engendrera graduellement la certitude qu'il existe en nous quelque chose que rien ne peut détruire ou altérer et qui ne peut mourir. Milarepa écrivait: dans l'horreur de la mort, j'allais dans les montagnes. Encore et encore, je méditais sur l'incertitude de son heure. Ayant pris la citadelle de la nature de l'esprit immortel et infini, toute peur de la mort désormais a définitivement cessé. Ainsi, nous prendrons peu à peu conscience en nous-mêmes de la présence sereine et semblable au ciel de ce que Milarepa appelle la nature immortelle et infinie de l'esprit. Quand cette conscience nouvelle sera devenue vive et presque ininterrompue, se produira alors ce que les Upanishads désigne comme un retournement dans le siège de la conscience. Une révélation personnelle, sans référence à aucun concept de ce que nous sommes, de la raison pour laquelle nous sommes ici et de la façon dont nous devons agir. En définitive, cela équivaudra à rien de moins qu'une vie nouvelle. Une seconde naissance, nous pourrions presque dire une résurrection. N'est-ce pas là un mystère splendide et apaisant que, par une contemplation continue et intrépide de la vérité, du changement et de l'impermanence, nous en venions lentement dans la gratitude de la joie, dans la gratitude et la joie, à nous retrouver face à la vérité de l'immuable, face à la vérité de la nature immortelle et infinie de l'esprit. IV. La nature de l'esprit. Enfermés dans la cage sombre et exiguë que nous nous sommes fabriqués et que nous prenons pour la totalité de l'univers, rares sont ceux d'entre nous qui peuvent seulement imaginer qu'il existe une autre dimension de la réalité. Patrul Rinpoche raconte l'histoire d'une vieille grenouille qui avait passé sa vie entière dans un puits humide et froid. Un jour, une grenouille qui venait de la mer lui rendit visite. « D'où viens-tu ? » demanda la grenouille du puits. « Du grand océan, » répondit la grenouille de la mer. « Il est grand comment, ton océan ? Il est gigantesque. Tu veux dire à peu près le quart de mon puits ? Plus grand ? Plus grand ? Tu veux dire la moitié ? Non. Encore plus grand. Est-il aussi grand que ce puits ? C'est sans comparaison. C'est impossible. Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Elles se mirent toutes deux en route. Quand la grenouille du puits vit l'océan, ce fut un tel choc que sa tête éclata. La plupart des souvenirs de mon enfance au Tibet se sont effacés. Mais deux événements resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Ce sont les deux occasions au cours desquelles mon maître Jamien Khyentse me donna l'introduction à la nature essentielle, originelle et la plus secrète de mon esprit. J'ai tout d'abord éprouvé une certaine réticence à révéler ces expériences personnelles. Car au Tibet, cela ne se fait jamais. Toutefois, mes étudiants et mes amis, convaincus qu'une évocation de ces expériences pourrait être bénéfique à autrui, me prièrent avec insistance de mettre ces souvenirs par écrit. Le premier de ces événements se produisit lorsque j'avais 6 ou 7 ans. Il eut lieu dans cette pièce très particulière où vivait mon maître, devant une grande statue représentant Jamien Khyentse Wangpo, son incarnation précédente. C'était une statue solennelle et imposante, surtout lorsque la flamme vacillante de la lampe à beurre, placée devant elle, éclairer son visage. Avant que je ne réalise ce qui m'arrivait, mon maître fit une chose tout à fait inhabituelle. Il me serra soudain dans ses bras et me souleva de terre. Puis il me donna un gros baiser sur la joue. J'en fus si surpris que durant un long moment, mon esprit s'évanouit complètement. J'étais submergé par une tendresse, une chaleur, une confiance et une puissance extraordinaire. La seconde occasion fut plus formelle. Elle eut pour cadre une grotte située à l'Audrak, Kartchou, où avait médité Padmasambhava, père du bouddhisme tibétain et saint vénéré dans le pays tout entier. Nous y avions fait halte lors de notre pèlerinage à travers le Tibet. Du sud. J'étais âgé d'environ 9 ans à l'époque. Mon maître me fit appeler et me dit de m'asseoir en face de lui. Nous étions seuls. Il déclara : « Maintenant, je vais te donner l'introduction à la nature essentielle de l'esprit. » Prenant sa cloche et son damaru, le petit tambour rituel, la boule fouettante, il psalmodia l'invocation à tous les maîtres de la lignée, depuis le Bouddha primordial jusqu'à son propre maître. Puis il me donna l'introduction. Soudain, à brûle-pourpoint, il me posa cette question sans réponse. Qu'est-ce que l'esprit ? Tandis qu'il plongeait intensément son regard dans le mien, je demeurais interdit. Mon esprit avait volé en éclats. Il ne restait plus de mots, plus de noms, plus de pensées. En fait, il ne restait plus d'esprit du tout. Que s'était-il passé en cet instant stupéfiant? Les pensées du passé avaient disparu. Celles à venir ne s'étaient pas encore élevées. Le courant de mes pensées avait été tranché net. Dans cet état d'intense saisissement, une brèche s'était ouverte. Et dans cette brèche se révélait une pure conscience claire, immédiate de l'instant présent. Une conscience libre de toute saisie, simple, nue et fondamentale. Et pourtant, en même temps, de sa simplicité dépouillée, rayonnait la chaleur d'une compassion immense. Il y aurait tant à dire sur cet instant-là. Apparemment, mon maître m'avait posé une question, et cependant, je savais qu'il n'en attendait pas de réponse. Avant même de partir en quête de celle-ci, je savais qu'elle n'existait pas. Je demeurais assis comme foudroyé d'émerveillement, tandis que jaillissait en moi une certitude profonde et lumineuse, inconnue jusqu'alors. Mon maître avait demandé « Qu'est-ce que l'esprit ?» Il me sembla en cet instant que tout le monde savait déjà que l'esprit en tant que tel n'existait pas et que j'étais le dernier à l'apprendre. Se donner la peine de le chercher, cela semblait tellement ridicule. L'introduction effectuée par mon maître fut comme une graine semée profondément en moi. Plus tard, j'en vins à réaliser que telle était la méthode d'introduction utilisée dans notre lignée. Toutefois, le fait que je l'ignorais alors rendit cet événement totalement inattendu et d'autant plus puissant et déconcertant. Il est dit dans notre tradition que trois authentiques doivent être présents pour permettre l'introduction à la nature de l'esprit. La bénédiction d'un maître authentique, la dévotion d'un étudiant authentique et une lignée authentique de la méthode d'introduction. Dans la prochaine émission, nous finirons ce chapitre sur la nature de l'esprit. En attendant, je vous dis merci et à bientôt dans la quatrième dimension.